Audiolib présente Le vol des cigognes de Jean-Christophe Granger, lu par Philippe Allard. À Virginie Luc. Partie 1. Douce Europe. Chapitre 1. Avant le grand départ, j'avais promis à Max Böhm de lui rendre une dernière visite. Ce jour-là, un orage couvait sur la Suisse romande. Le ciel ouvrait des profondeurs noires et bleuâtres où saillaient des éclats translucides. Un vent chaud soufflait en tous sens. À bord d'un cabriolet de location, je glissais le long des eaux du lac Léman. Au détour d'un virage, Montreux apparut, comme brouillé dans l'air électrique. Les flots du lac s'agitaient, et les hôtels, malgré la saison touristique, semblaient condamnés à un silence de mauvais augure. Je ralentis aux abords du centre, empruntant les rues étroites qui mènent au sommet de la ville. Lorsque je parvins au chalet de Max Böhm, il faisait presque nuit. Je jetai un coup d'œil à ma montre. 17 heures. Je sonnai, puis attendis. Pas de réponse. J'insistai et tendis l'oreille. Rien ne bougeait à l'intérieur. Je fis le tour de la maison, pas de lumière, pas de fenêtre ouverte. Bizarre. D'après ce que j'avais pu constater lors de ma première visite, Böhm était plutôt du genre ponctuel. Je retournai à ma voiture et patientai. De sourds grondements raclaient le fond du ciel. Je fermai le toit de ma décapotable. À 17h30, l'homme n'était toujours pas là. Je décidai d'effectuer la visite des enclos. L'ornithologue était peut-être allé observer ses pupilles. Je gagnai la Suisse allemande par la ville de Bulle. La pluie ne se décidait toujours pas, mais le vent redoublait, soulevant sous mes roues des nuages de poussière. Une heure plus tard, j'arrivai aux environs de Wessenbach, le long des champs aux enclos. Je coupai le contact, puis marchai à travers les cultures, en direction des cages. Derrière le grillage, je découvris les cigognes. Bec orange, plumage blanc et noir, regard vif. Elles semblaient impatientes. Elles battaient furieusement des ailes et claquaient du bec. L'orage, sans doute, mais aussi l'instinct migratoire. Les paroles de Böhm me revinrent à l'esprit. Les cigognes appartiennent aux migrateurs instinctifs. Leur départ n'est pas déclenché par des conditions climatiques ou alimentaires, mais par une horloge interne. Un jour, il est temps de partir. Voilà tout. Nous étions à la fin du mois d'août, et les cigognes devaient ressentir ce mystérieux signal. Non loin de là, dans les pâturages, d'autres cigognes allaient et venaient, secouées par le vent. Elles tentaient de s'envoler, elles aussi, mais Böhm les avait éjointées, c'est-à-dire qu'il avait déplumé la première phalange d'une de leurs ailes, les déséquilibrant et les empêchant de décoller. Cet « ami de la nature » avait décidément une étrange conception de l'ordre du monde. Soudain, un homme tout en os surgit des cultures voisines, courbé dans le vent. Des odeurs d'herbes coupées arrivaient en tempête et je sentais un mal de tête grimper dans mon crâne. De loin, le squelette cria quelque chose en allemand. Je hurlai à mon tour quelques phrases en français. Il répondit aussitôt dans la même langue.
« Böhm n'est pas venu aujourd'hui, ni hier d'ailleurs !»
L'homme était chauve et quelques mèches filandreuses dansaient au-dessus de son front. Il ne cessait de les plaquer sur son crâne. Il ajouta
« D'ordinaire, il vient chaque jour nourrir ses bestioles !»
Je repris la voiture et foncé à l'écomusée, une sorte de musée grandeur nature situé non loin de Montreux, où des chalets traditionnels suisses avaient été reconstruits en respectant le moindre détail. Sur chacune des cheminées, un couple de cigognes était installé sous la haute responsabilité de Max Böhm. Bientôt, je pénétrai dans le village artificiel. Je partis à pied, à travers les ruelles désertes. J'errai de longues minutes dans ce labyrinthe de maisons brunes et blanches, comme habitées par le néant, et découvris enfin le beffroi, une tour sombre et carrée, de plus de 20 mètres de haut.